Pega pro chinelo, 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 oya mame, oya mame, oya mame.
Tunga Souwe, les amis, bienvenue à Madagascar. Je suis Rebecca Alexis Langard, journaliste et aventurière. Je t'emmène à travers un périple de 14 jours dans le sud-est de Madagascar, où j'ai été la quatrième touriste à entrer dans le parc national d'Andrinjitra après 2 ans de fermeture à cause du coronavirus. Les personnes qui chantent là, c'est l'équipe avec laquelle je suis partie. Patrick Andriyami Adja, le guide photographe animalier, et son inimitable rire. Le guide national Adrien Razafi Mandibi et son humour à toute épreuve.
Les porteurs, ils sont très timides.
Ah oui, moi je peux te regarder face à face comme ça. Mais il y a des champs magnétiques entre nous là.
Depuis 25 ans, il promeut l'écotourisme dans le parc national d'Andrinjitra et il a créé la réserve d'Anja pour préserver les makikata, le plus emblématique des lémuriens. J'étais accompagnée d'Anaël, une bordelaise de 30 ans qui a égayé le trek. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Et les 8 porteurs qui se présentent en chanson. Oui, il y avait bien 8 porteurs pour la nourriture. En fait, ils transportaient des cocottes pour cuisiner en quantité. Il voulait absolument porter mes 20 kilos d'affaires, mais j'ai tenu bon jusqu'au bout. C'était mon petit défi personnel. Seuls les guides parlent français, les porteurs savent dire 2-3 mots, mais je pense qu'ils nous comprenaient mieux qu'on ne le pensait. Depuis l'aéroport de Tana, la capitale, il nous a fallu 2 jours de voiture pour rejoindre le premier point étape, en partie sur la RN7, l'axe routier principal. Autrement, c'est de la brousse. Et ces 2 jours ne sont pas plus mal pour s'adapter parce qu'au début, on ne réalise pas forcément où on est tellement c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je vois des enfants aux habits troués s'amuser à reboucher les routes avec une pelle. Je vois la pauvreté, des cases en bois, des toits pas finis, des enfants qui nous tendent la main par la fenêtre, qui travaillent dans les rizières avec leurs parents. Sur la route, on en profite pour découvrir l'artisanat malgache. C'est incroyable tout ce que les Malagas savent faire avec si peu. Du miel, des huiles essentielles, des sacs en raffia, des objets en bois, de la marqueterie, des plats, des bijoux, de la bonne cuisine, du vin qu'ils vendent sur les bords de route.
Les cuites qu'ils sont en train de mettre dans le bouteille là, c'est... Géranium. C'est du genre médecine traditionnelle contre le mal d'estomac.
50 klaxons plus tard, nous voici donc à Ambalavao, plongés dans les us et coutumes des Malagas, avec Adrien, l'un des premiers guides touristiques dans le pays.
303, c'est...
Le code postal d'Ambalavao.
Oui, c'est un roman très célèbre dans cette région-là. 303, c'est notre code postal, mais fabriqué dans cet endroit-là. Comme la charrette chez vous, je ne sais pas.
Ah oui, oui, il y avait de la rhum charrette, c'est 300. Rhum agricole. Ouais. Et vous, c'est rhum 303.
303.
Mais il était 35%, hein, ça va. Hein.
Oui, ça va.
Parce qu'il y a quoi dedans, c'est bien. 35, c'est bien. Et... aromatisé à la noix de coco, il y a quoi dedans?
Il y a...
C'est du rhum aromatisé. Okay. Est-ce que quand tu marches, tu portes la tenue traditionnelle? Cette tenue.
Non, 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 on ne porte pas ça. On s'accroche dans le sac.
Mais vous la portez quand même toujours?
Oui, on amène, c'est ça notre tradition. Le chapeau et puis la couverture, le lamba.
Lamba.
Lamba. Lamba. Oui, lamba.
Et le chapeau sous...
Chachuka. Chachuka.
Chachuka. Pour que la balade se passe bien, du coup, c'est tu ça. Verses le rhum où? Du côté nord-ouest.
Nord-est.
Nord-est.
Je parle en malgache parce que nos ancêtres ne comprennent pas, ils ne comprennent pas le français, donc juste un petit peu. Angaro tu penses en haro raksotarunfa, afieton et fasaha, repekasi, Patrick et Anaël et puis tenga comme raksotarunga, tondre to masse comme yartana ma pukan fleti. Dia tahisu tahisarang yang bahwa lala talak nanti naik rak sotarung yang bahasa hisen rah no fada fasa fana ruas nampi kepoit pian kete ang rah kel kel tahisu tahisarang naro ras nanti artan tiba te slung yang fita son lala so sendiri tu pendenang har so se ce que je veux dire que notre balade se passera bien, il n'y aura pas de nuages, nous serons au Pic Poupi et que tout le monde sentira bien.
La coutume locale ici se résume en deux mots, comme nous l'explique Rita, le gérant de l'hôtel au Bougainvilliers, en Balavao.
Mouramour, en gros, ça résume pas mal de choses. Mouramour, c'est-à-dire qu'on n'est jamais pressé, on n'est pas stressé du tout. Malgré la difficulté de la vie à Madagascar, on a toujours cette philosophie de dire « ça ira mieux demain ». Et ce qui nous apporte en fait une façon de vivre, on n'est pas dans le besoin matériel en fait. C'est vraiment une joie où tu te dis « ça se passera mieux demain ». Comme tu as pu voir, même toi tu étais étonné tout à l'heure, j'ai 46, 47 ans bientôt. J'ai il y a 3 ans de 50 ans et tu étais étonné en fait, voilà, justement parce que je ne me stresse pas. On n'est pas du tout des gens, tu vois. Là par exemple, vous partez cet après-midi, peut-être qu'il y a un petit empêchement ou le guide il sera 13, 14 heures, pas grave, 17 heures, il n'y a pas grave. Et en fait, c'est un peu qui résume Madagascar, en fait, c'est pour ça qu'on est un pays très pacifique, tu vois. On est des gens, en fait, malgré la difficulté. Et je précise qu'à Madagascar, on n'est peut-être pas les moyens, mais on n'est pas malheureux, en fait. Avec le peu qu'on a, on est toujours cette joie de vivre, en fait. On ne sait pas d'où ça vient, mais on ne dit pas, parce que je suis contre aussi les gens qui disent que c'est une fatalité. Non, c'est vraiment l'esprit des Malgaches, en fait, de dire non, tranquille, mour à mour. Et donc ce mot-là, peut-être que vous l'avez entendu dès que vous arrivez à Madagascar, mour à mour. Et c'est ça en fait cette philosophie que tous les Malgaches ils ont en fait. Et c'est pour ça qu'en général, on se trompe toujours, toujours à 95% l'âge des Malgaches. Parce que physiquement, ben, on ne se prend pas la tête, c'est pour ça en fait.
En effet, j'ai cru qu'on n'allait jamais partir. Mais 5 heures de retard plus tard... Première étape, les pieds dans l'eau. On laisse d'abord un troupeau de zébus traverser la rivière. Il y a un homme avec un fusil en bourrière qui se lance. Et puis on y va.
Alors cette traversée de la rivière à Naël,
ah, c'était magique. J'ai eu un super protecteur qui m'a tenu la main. C'était merveilleux.
Il est trop mignon. C'est notre grand chef.
Tellement importante. Comment tu t'appelles?
Moi je m'appelle Jeannot.
Comment?
Jeannot.
Jeannot?
Ouais.
Ok, pardon.
Lycée.
Ouais, un peu.
Et vous?
Tu as quel âge, Jeannot?
J'ai 32. 32 ans.
32 ans?
Ouais.
Ok. Moi, je m'appelle Rebecca.
Rebecca.
Et j'ai 26 ans.
Et moi, c'est Anna.
Anna.
Et j'ai 30 ans.
Ok. Tongachua.
Tongachua.
Yeah.
Bienvenue à Madagascar.
Bienvenue à Madagascar. Ici, un amateur.
Quelques mètres plus loin, une échelle en bois longe un mur de pierre qui mène à un pont au-dessus de la rivière. Ces ponts sont vraiment impressionnants. Quand on les a passés en 4x4, le conducteur mettait des planches pour combler les trous, puis on passait au-dessus et les reprenait. Là, on est à pied, on n'a pas de planche à disposition, donc il faut jouer les équilibristes. Adrien,
comment ça se passe tous les ans au niveau de la réparation des ponts? Puisque tous les ans, vous avez des cyclones.
Ah oui, c'est très fort. La cyclone là, cette année. Et tous les ans, il y a des cyclones, mais on n'arrive jamais à abîmer le pont comme ça.
Celui-là, ça a été le plus fort depuis combien de temps?
Depuis des années. Depuis ma mère m'a fait dire qu'il n'y a pas de cyclone comme ça depuis qu'elle est. Elle a maintenant 63 ans.
Mm-hmm.
Donc
elle a vu.
Ouais.
Elle a vécu beaucoup de cyclones, quoi.
Ouais,
et au niveau de la réparation des ponts, du coup, tu disais quoi tout à l'heure? Que là ça va pas se faire avant combien de temps?
Il y a le maire de la commune qui voudra appeler les paysans pour réparer ça, mais les paysans ne voudront pas parce que ils demandent
de le faire gratuitement.
Oui, la redevance de MNP depuis 2007. Donc,
en fait, c'est les paysans qui financent la construction du pont.
Alors qu'ils n'ont pas eu des sous.
Et ce n'est pas l'État qui finance la reconstruction des dégâts cycloniques.
Oui, l'État normalement, mais vu l'État est vachement pauvre, n'arrive pas à avoir donné, à faire des subventions ici. Sauf que les trucs au bord de la route, pour bien dire qu'on a fait des choses, c'est ça. Ils ont mis la lumière seulement au bord de la RN7, mais ils ne voudraient pas mettre ici, parce que ici... les gens ne disent pas, chez eux, c'est loin de la, la, la radio, tout ça, pour bien dire que l'État il travaille bien. Mais ici, c'est loin de la radio, donc...
Parce que ce que tu es en train de dire, c'est que la radio, ils vantent beaucoup ce qui est fait, mais pas ce qui n'est pas fait.
C'est ça, côté positif.
Que le mais côté positif.
Le côté néfaste, c'est...
C'est tu.
Bouche cousue.
Salam. C'est quoi ici? On est arrivé au...
Burudakai.
C'est quoi? C'est un gîte? C'est une sorte... Un gîte. Juste à l'entrée du parc national.
Bienvenue. Bienvenue à toi.
Ça va?
J'en ai chié la dernière montée là.
Chaud, j'en pouvais plus.
C'était dur.
Ma chemise a été trop trempée. Toi, ça va?
Tu viens d'arriver?
Oh, ça fait quoi? 10 minutes?
Ouais, vous avez pris d'avance.
Ouais.
Vous m'avez semé un moment.
Mais en fait, à un moment, je me suis retournée puis t'étais plus là.
Ouah, ce trou. Je pense dans le toit, ça doit être dû au cyclone, ça.
Ouais, mais toutes les maisons sont...
Non, Patrick, on l'a pas vu depuis le passage de la rivière, au tout début du trek.
Sérieux?
On l'a pas revu du tout.
Mais c'est...
Je sais pas ce qu'il fait.
Il s'est voilé?
Il doit chercher des bêtes, sûrement à photographier. Alors, où est-ce qu'on est, là?
Un peu plus loin.
Ah, en fait, il y a plein de petites maisons.
Ouais, c'est ça.
Oh, c'est mignon. C'est mignon comme tout. Ah ouais.
Faut vite que je fasse ma tente là parce qu'il fait nuit à 18h déjà, il fait nuit noire et on va en profiter avec Patrick pour aller faire des photos de nuit à la recherche des serpents, des caméléons, de toutes les petites bébêtes en tout genre qui sont cachées dans la brousse.
On bivouaque à l'entrée du parc national en partie ravagé par le cyclone. À côté de l'ancien restaurant, j'aperçois une pancarte parc national parmi les débris. L'étendue du paysage est déjà immense. Il y a des gîtes en terre rouge parmi de grandes plantes vertes.
C'est quoi le thé d'ici?
Citronnelle.
C'est de...
Tu connais la citronnelle?
Vous faites infuser le bâton dedans, c'est ça?
Non, avec thé citronnelle, c'est avec...
Les feuilles?
Les feuilles.
Puis c'est bien contre les moustiques. Ça sent le citron très très fort.
Bien sûr.
Ah, c'est cool. Donc vous mettez... Là, vous avez mis les...
Aussi.
Ah, ça soulage la fatigue, la citronnelle. C'est bon à savoir. Vous en avez emporté avec vous ou est-ce que vous la trouvez aux alentours?
Ici même.
Ah, ici même là,
juste vous... devant le bureau du parc là, ça pousse pas.
Ah ouais, avec les petits biscuits.
On est bien là.
Oh là là, c'est le grand luxe là. Hein.
Vas-y.
Dis donc.
Mais ici en Madagascar, quand on se lève très très tôt parce que paraît-il que le destin il descend du ciel à partir de 23 heures, et puis il remonte à 3 heures du matin, ou au plus tard 3h30 du matin. Donc si tu voudras chercher ton destin, il faut que tu te lèves très très tôt, et après tu vas retourner au lit.
Donc vous vous levez à quelle heure pour aller chercher votre destin?
À chaque fois je me lève à 3 heures, laver les yeux avec de l'eau froide, et puis retourner au lit, souvent comme ça. Il y a beaucoup de traditions, beaucoup de traditions à Madagascar, surtout dans la région Pitsélé, dans la région de l'Antemour, dans la région, n'importe quelle région, ils ont leurs traditions. Chez vous, vous n'effectuez pas la circoncision, mais ici, chez nous, là, on fait la circoncision, c'est-à-dire couper les zizi de bébé.
À la naissance, dès la naissance?
Non, à partir de 2 ans.
À partir de 2 ans. Et alors, vous circoncisez les garçons? Est-ce que vous excisez vous?
Les filles, on ne fait pas. Mais dans les gens de la Tandru, là-bas, c'est pas circoncis parce que eux, c'est venant de descendants de l'Afrique, de l'Est. Donc, eux, c'est pas circoncis du tout.
Où ça?
Dans le sud de Madagascar.
Dans le sud de Madagascar, ils ne circoncisent pas les enfants, les garçons.
Dans les Antandrui. Mais côté Merna, côté l'endroit où nous irons, Manakara, ils font la circoncision tous les 7 ans.
Tous les 7 ans?
Oui, c'est tous les 7 ans. C'est circoncision commune. Donc, si tu fais tes enfants circoncis, ça tombe pas au rendez-vous, au meeting tous les 7 ans, tu payes des amendes. Donc, le père de la famille, soit ils donnent ça aux zébus, soit ils mangent ça avec
dans
la
banane.
Banane.
Oui, je l'ai
avalé
vu.
D'un seul coup.
Et ça, c'est dans le...
Dans les la tradition Petzilo.
Petzilo, c'est où?
C'est nous.
C'est vous? C'est,
oui, nous, moi je suis Petzilo.
Ah d'accord.
Ah oui.
Et du coup, est-ce que tu as mangé le
si, on a
la
déjà,
capsule de ton fils?
C'est ce matin là, on a déjà mangé, avalé.
Donc toi, tu as dû manger la capsule de ton
j'ai,
fils.
J'ai mangé trois fois.
Trois fois.
parce que chacun, il a son pouvoir. Par exemple, toi, tu as ton pouvoir. Rebecca, tu as ton pouvoir. Et là, c'est une sorte de filiation, c'est-à-dire que ton pouvoir reste toujours dans ta famille, par exemple. Tu es vraiment forte, tu es vraiment intelligent, comme ça. C'est ça. Mais si tu laisses quelque part, ça va disparaître, ça va perturber la vie des nouvelles générations, c'est comme ça.
Et quel est le pouvoir de ta famille?
C'est-à-dire que dans ma famille, par exemple, ma mère, elle est déjà institutrice, et puis moi, déjà fini mes études, et après, il y a mes enfants aussi, plus que moi, c'est ça. Mais ça va continuer plus loin, c'est comme ça. Donc ça reste, ça dépend de la famille, mais il y a toujours la conviction d'aller très très loin. C'est ça le pouvoir.
Est-ce que ça vous dit d'aller voir un caméléon?
Ah ouais, il y en a là.
Dormir. Ouais, ouais.
Ah ouais, bah ouais.
Juste en bas.
Ah vas-y.
Emmène l'appareil et tout.
Comme l'explique l'autre guide, Jeannot, si l'on ne veut pas s'attirer des malheurs, il y a tout un tas de fadis à respecter.
Il y a des fadis,
des
tabous comme le viande de porc. Il est interdit de porter le viande de porc dans le parc national Andinte, surtout l'endroit au circuit appelé Saramante, parce que là il y a un de l'endroit sacré à cause du lieu de site d'eau sacré.
À cause de?
De sites d'eau.
Ah, à cause de deux sites d'eau?
Oui, vous verrez de deux sites d'eau sacrés.
À chaque fois qu'il y a, il y a quelque chose de sacré, que ce soit un paysage, je ne sais pas si ça peut être un objet par exemple, vous êtes obligé de respecter toujours des traditions.
Ouais.
Des contraintes finalement. Enfin, je veux dire, vous êtes.
Les gens ici toujours respectent le fadi, surtout dans le parc national d'Andinte, parce que ça nous donne de mauvaises conséquences quand il y a quelqu'un qui. Parce que
qui
la plantation.
Ouais.
Il y aura du pluie avec du tonnerre et du grêle.
Jeannot me dit que c'est tabou de faire ses besoins dans le parc. Ben, c'est pas le moment d'avoir la touriste, hein. Bon, malgré les fadis, nous sommes privilégiés d'entrer dans ce parc, selon Patrick.
Depuis la crise du Covid, qui a duré déjà presque 2 ans et quelques, on est la 4e touriste qui est venue ici. D'après l'information venait du guide local du parc national d'Andinte.
C'est un trek vraiment qui est pas du tout prisé par les touristes qu'on est en train de faire en fait.
Ouais, en fait le grand problème c'est que y a pas assez de publicité pour ce parc pour que ça puisse développer. C'est pour ça qu'on a vu des tas des par exemple des tas des hôtels qui sont partis. Les toits sont partis à cause du vent du cyclone. Normalement, il devrait avoir d'autres infrastructures pour se développer encore plus. Mais là, on a vu que les infrastructures qui sont détruites, les gens ne commencent même pas à les réparer. Donc,
Et il y a toujours la possibilité de toute façon de faire du camping ici quand on vient.
Oui, bien sûr.
Ouais. Niveau sécurité, dans le parc, c'est...
Ah, c'est bon, il n'y a rien à craindre ici. C'est tranquille. Non, jamais eu d'accident, il n'y a pas de bandits ou quelque chose comme ça qui craint.
Il y a combien de manières différentes de dire bonjour, enfin de saluer quelqu'un quand on les croise?
Akuriabi, Manawona, Salam. Ça, c'est le même sens.
D'accord.
Quand on demande des nouvelles, des nouveaux vols, tout soit, ça veut dire comment ça va. Et ils répondent ça va. Samana.
Soussouab.
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 Yeah, ça veut dire comment ça va.
Comment ça va.
Yeah.
Ok.
Yeah.
Soussouab. J'apprends petit à petit, mais il y a plein de choses à retenir. Waouh. Tu préfères marcher en chaussures plutôt que pieds nus ou des fois tu fais la route pieds nus?
Moi, j'ai l'habitude de marcher
pieds nus.
Si j'ai fait du travail au champ,
pour faire tu préfères
des chaussures.
Des chaussures, ouais. Il y en a qui le font pieds nus, c'est incroyable. À La Réunion, il y avait quelqu'un qui gravissait les montagnes pieds nus. Et il me disait que chaque pierre était là pour lui masser la plante des pieds. Salam.
Salam. On arrive dans le village isolé d'Ontanasikouts. Nous sommes accueillis par une dizaine de personnes, en majorité de jeunes enfants. La population malgache est très jeune en général. Les femmes donnent naissance à 4 enfants en moyenne. Ontanasikouts, c'est un village ravagé par le cyclone Batsirai. Il ne reste qu'un tas de pierres de l'école la plus proche. Les dégâts n'ont même pas bougé, ils sont comme figés dans le temps. Une grande famille réside encore, comme ce père de famille, Jean Fleury.
Pendant le cyclone qui passe, il y a toujours les maisons, des champs, des parents. Qui n'est pas détruit par les cyclones. Donc, ils changent de vivre dans cette maison.
À combien vous vous retrouvez dans une maison, par exemple, à cause du cyclone ?
Dans une maison, il y a une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes qui vivent dans une maison à cause de cette destruction de la maison.
Dans une maison de combien de mètres carrés ?
Firne, refine, tchano, kelly, maximum 8 mètres à 10 mètres. Et puis, qu'un étage, juste une pièce en bas, ou deux pièces en haut, ou deux pièces en bas, une pièce en haut.
Est-ce que vous avez espoir que ça soit reconstruit? Si vous voulez faire passer un message, par exemple, au gouvernement.
La maison, seule la propriétaire de maison qui répare cette maison, elle commence à fabriquer des briques, mais pas le gouvernement, aucune subvention du gouvernement. Même à Djibouti, c'est trop petit.
Toi, quand tu vois, tu passes dans les villages comme ça, qu'est-ce que tu ressens?
On voit les gens, ils pensent de se révolter, mais de trouver des meilleurs vies, mais c'est pas possible. C'est ça qu'ils ont la déception.
C'est ça, ils sont résignés.
Oui.
Je pensais qu'il y avait quand même beaucoup d'ONG, beaucoup de bénévoles qui passaient dans les villages, c'est faux?
Pas du tout.
Pas du tout.
Sauf Cécaline, c'est un projet. Un projet, mais ça ne rapporte pas grand chose au peuple.
Parce que toi, tu risquerais gros, on va dire, si tu t'aventurais à parler de ces problèmes-là directement, par exemple à un maire, à quelqu'un qui fait partie du gouvernement.
Moi, j'ai déjà expliqué ça au maire de la commune, pas au gouvernement, mais aux responsables, par exemple le gouverneur de la région Haute-Mansiat, la région de Fenarassou. Mais eux, ils ne font que la politique, c'est juste pour soutenir le président. Donc, à toute chose qu'il montre au peuple, c'est aucun impact positif au peuple, c'est impact positif au président pour bien soutenir le siège du président. C'est ça qu'il garde beaucoup. Mais le développement du peuple, rien du tout.
J'ai dit ma chaussure.
Tes chaussures? Vous leur demandez de nous attendre, c'est ça?
Pour que tu puisses récupérer tes chaussures pour la forêt.
Ouais, c'est ça, on va voir.
Ouais, bah oui.
Parce que là, on va passer dans la forêt?
Oui, bien sûr. Dans la forêt, dans le rocher, là, pour se baigner. Et pourtant, quand on va traverser, je veux dire, les rochers, hein, ça pourrait que la peau va se briser à cause des rochers.
Ah oui.
Et c'est
et des morceaux de bois aussi, j'imagine.
Ouais, ouais. Et c'est mieux de mettre la chaussure. À partir, ok, on y va.
Allez.
Allez, en route vers le pic Bobby, le deuxième plus haut sommet de Madagascar qui culmine à 2658 mètres de hauteur.
On est seul au monde ici.
Ouais.
Donc là, on a fait...
2010.
On est à 2010 mètres.
Ouais, parce qu'au campement là-bas, c'est 2035. Et puis au-dessus, c'est 2658.
D'accord.
Nous étions partis en 1680.
À 1680, on est parti, ouais.
Pic Bobby, ça vient du nom du chien, mais ça a déjà changé depuis l'année 2014. Et on a changé Pic Marie-Vlante. Marie-Vlante, ça veut dire tout près du ciel. Et quand on arrive au pic, on peut toucher le ciel comme ça quand on saute. Vous verrez ça quand on arrive là.
Bonjour.
Bonjour.
Ouais, ça va et toi? T'as bien dormi?
Super. Waouh, waouh, waouh. Salam.
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 Bonjour.
Bonjour. Ça va?
Oui, ça va bien. Bien dormi?
Ouais, 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 en forme.
Juste
prête? C'est joli, on voit juste le croissant de lune.
Il est 2h du matin et on s'apprête à gravir le pic Bobby. On suit Jeannot de nuit qui avance pas à pas à travers les buissons. Avec son bâton de marche, il chasse les serpents. Je précise qu'il n'y a aucun balisage depuis le début de l'aventure. Les sentiers ne sont pas évidents, d'où l'importance d'avoir un guide. Il y aurait encore des endroits qui ne seraient pas répertoriés sur les cartes. Et dans la brousse, la plupart du temps, on ne capte aucun réseau local. Ça, c'est bon, on peut tout sauver, plus la pluie, le brouillard, on voit absolument rien, c'est nickel.
La meilleure partie, c'est sur le retour, quand on se rend compte deux jours de tout ce qu'on a traversé, c'est vraiment incroyable. De grands rochers à plus de 200 mètres de haut, et il faut faire très attention aux herbes parce qu'on s'en mêle très facilement et là la chute pourrait faire très très mal.
C'est marrant comment ça fait.
C'est quoi que l'on entend comme oiseau?
Des fouvettes, ça.
Des fouvettes?
Ouais.
Ah oui, je le vois.
Ah oui, c'est plusieurs. En redescendant le chemin, on aperçoit des crottes de fossa. C'est le plus grand prédateur de mammifères de Madagascar. C'est une espèce en danger. Et si vous ne savez pas à quoi il ressemble, eh bien, imaginez un petit puma croisé avec une civette.
Le petit déj à la merguez.
Comment la quantité de riz là?
Là, ça suffit là. C'est bon.
C'est quoi? Encore?
Je sais pas. Comment ça encore? Il veut que je mange, hein?
Quand on va tuer, non pas?
Du coup, c'est un mélange de quoi alors?
Bon appétit, hein.
Comment on appelle ça? Du green vegetables with tomatoes and potatoes. I don't touch it.
Regarde, c'est une fleur, ça.
Okay.
Ouais, ouais. Si tu le manges ça, ça va te chauffer la bouche.
C'est vrai? Ça ouais. Va faire quoi? On va chauffer la bouche.
Oui. Ah bon? Mmh. C'est quoi comme fleur?
Nous, les fleurs en Anamalayo?
Après.
Oui, c'est le même qu'on avait mangé hier,
pour éviter la...
Qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous avez trouvé quoi? Une grenouille?
Non,
elles sont trop petites.
C'est bien fermé la main.
Oh là là, elles sont trop mignonnes.
Il y en a le TV. Ça fait attendre.
Oh, elles sont toutes petites, quoi.
Donc, je reste un tout petit peu de l'eau pour qu'elles ne souffrent jamais.
C'est quoi comme espèce?
Scaphiophrinae, endémique ici. Il faut que tu prépares ton appareil pour que tu prennes en photo. Ça, c'est comme le camouflage de Malaga no fatin scaphiophrinae. C'est là.
Oh, wow.
Okay. Il faut se lever à 1h du matin pour pour trouver ça, alors que vous avez la chance en plus que vous êtes deux. Donc,
il y en a deux.
Chacune sa grenouille. Là, c'est Rebecca et là, c'est Anaëlle.
Attends, je lâche un tout petit peu parce qu'elle est fatiguée. Donc, je le lâche comme ça. Voilà. Ça, c'est scaphiophriné. Attends.
Ah, elle se sauve, dommage.
Faut vraiment faire attention quand ça marche, hein, parce que ça. Bah, sans doute qu'on en a pas eu.
Ah, elle saute sur ton appareil, c'est pas grave ça. Posez doucement.
En effet, il faut faire attention où on marche, parce qu'il y a aussi des caméléons dans les herbes.
C'est quoi comme espèce de caméléon?
Campanile caméléon, ça. Ouais. De la famille caméléonidée.
Comment tu reconnais que c'est un mâle ou une femelle?
C'est la couleur. Là, c'est la femelle. Et le mâle, c'est un peu rouge. C'est seulement sur cette espèce-là. Mais l'espèce qu'on a vue en premier, là, la femelle, c'est rouge et le mâle, c'est vert.
D'accord. Et celle-là, elle était verte avec... des crêtes rouges
sur la tête. Oui, c'est la femelle, ça.
Avec des petits points noirs. Mmh. Trop beau, en tout cas. Ouais, elle s'est fait une nouvelle peau, là. Mmh.
Mais en fait, c'est une légende de dire que les caméléons ont plus de couleurs comme ils veulent.
Ça dépend de la... C'est une question de camouflage.
D'accord.
Mmh. Elle arrive à imiter immédiatement pour se défendre, ouais. Oui.
D'accord. C'est ça. Et comment ça se fait qu'il soit aussi bas, enfin qu'il soit dans l'herbe? D'habitude, c'est pas accroché à des branches?
Ah non, ça c'est leur habitat. Leur habitat dans les herbes, comme ça.
Là, on est en train de se frayer un chemin pour aller jusqu'à la grotte pour s'abriter. Ça fait combien de temps qu'on marche sous la pluie?
2 heures.
Combien? Ça fait 2 heures qu'on marche sous la pluie. Et que ça ne s'arrête pas. Ah, sympa cette petite grotte.
On n'est pas bien là.
Alors, heureuse.
Dans une grotte. Après 2 heures sous la pluie. Très heureuse.
Les porteurs ont allumé un feu. Et là, c'est la fin de toute motivation pour repartir.
Attention, t'as une petite araignée qui descend au-dessus de toi. Sur ta droite. Là.
Ah oui.
À la patte.
2 heures après, et un peu moins trempé, on repart direction Taranombi. On traverse une forêt de palmiers parsemée de roches géantes. Un panorama digne des films d'aventure. On a la chance de voir un aigle, une espèce en danger dans le pays, car il est chassé pour être mangé. Jeannot repousse des zébus qui tentent de s'approcher trop près de nous. On s'installe à un campement où l'on s'abrite sous une sorte de hutte faite de pierres et de bois. On se retrouve assis au coin du feu, les porteurs cuisinent et nous font entendre leur voix.
Lamaku, Avereno, Atambar.
Yeah. Le lendemain, en route vers le vertige, on traverse la vallée du Tcharanour, un terrain d'escalade connu à l'international par les grimpeurs, avec son bloc de granit de 800 mètres de haut. Le paysage est à couper le souffle. Des lézards géants grillent leur peau au soleil sur les roches chaudes. Des araignées presque aussi grosses que ma main ont tissé des toiles bercées par le vent.
On peut faire de ce qu'on appelle élevage d'araignées. Et pour le but, c'est de tirer le fil dans l'abdomen. Et le fil, il y a un produit à mettre au-dessus pour bien tenir la couleur dorée comme ça. Et ce qu'on va faire avec, c'est du gilet en tuba.
Wow.
Et là, ça peut prouver si tu jettes quelque chose, une sauterelle au-dessus, ça rebondit comme ça. Ça, c'est pour faire
du gilet par balle, oui, oui. Avec ça.
Avec ça.
Oh, mais il en fait une quantité incroyable.
Oui, dans une abdomen comme ça, tu pourras avoir 2 km de fil.
Ah ouais?
Celle du cocon du Verassois, c'est 1 km. Si c'est du bon Big Samoro, si ce n'est pas encore cassé le cocon. Ouais. Mais si c'est cassé, tu n'arrives pas à voir 1 km. Donc pour faire le gilet antipal, ce n'est pas avec l'étoile que vous avez vue directement, mais c'est venant directement dans l'abdomen.
Ah bon?
Il y a un produit à mettre au-dessus pour bien tenir cette couleur.
Oh, mais comment? T'es trop fort, Patrick. Tu l'as vu de
loin,
de la route, là?
Ah, lui, il a les yeux comme le faucon. Hein. Le faucon, il a les yeux à fort grossissement.
Comment tu dis ça? Autant les serpents, ça ne me dérange pas. J'en ai déjà eu et tout. Ça me...
Mais ça te dérange.
Les araignées, ça me...
Et les malakaches, ils mangent ça pour soigner le tout.
Ah bon?
Ah oui, grillé.
Mais elle est vraiment belle, hein?
Elle est très belle.
La femelle est plus grande que le mâle. Comme toi, et moi c'est le mâle, et toi c'est la femelle.
Les bonnes comparaisons toujours. Hein.
Ce matin-là, pour nous mettre en jambes, on doit sauter au-dessus de l'eau.
Allez Patrick! Allez Patrick!
Pour terminer ce quatrième jour de marche et cette première partie du trek, Adrien nous emmène au parc d'Anja, à quelques kilomètres d'en Balavao. Le parc d'Anja est une réserve de lémuriens qu'il a créée il y a 21 ans.
Avec les gens, les villageois qui habitent aux alentours de cet endroit-là. Et puis j'avais expliqué à eux de sauvegarder cet patrimoine en éduquant les gens d'ici de ce qu'on appelle de changer le système de culture de riz, de pratiquer de ce qu'on appelle la culture moderne. Et puis s'ils avaient vu qu'ils ont beaucoup de rendements de riz, en équilibre de ça, j'avais demandé à eux de protéger cet endroit-là. C'est ça l'équitabilité que je faisais.
Pour le protéger, qu'est-ce que tu as mis en place?
C'est-à-dire reboiser, mais les primates étaient déjà là. Mais protéger et puis reboiser, restaurer cet endroit-là en plantant des arbres, plusieurs espèces comme le ficus que les lémuriens servent pour manger les fruits, le mélia, il y a aussi, sans y compter, le baobab aussi, qu'on avait, qui était avant ici, mais on avait commencé de planter ça depuis 20-10 ans comme ça.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver du coup pour en venir aux lémuriens?
Ce sont des lémurkata alors. Ce sont des lémuriens qui vivent toujours en groupe. Ils ont la sérénité, la tranquillité. Ils arrivent à se reproduire bien sur cet endroit-là. Et puis, ils vivent toujours en groupe de 15 à 20 ans. À 25 plutôt, pardon. Et puis, s'ils ont des amours, ça passe bien, surtout maintenant, avec la naissance qui sera commencée en septembre. Et puis, le bébé qui pèse 70 grammes. Un adulte à partir de 3 ans. On les laisse se reproduire eux-mêmes. Même il y a des problèmes entre eux, par exemple, il y a des maladies qu'il faut l'observer. On avait appelé des vêtres pour les soigner, mais on n'arrive jamais à trouver des vêtres, donc ils se soignent entre eux. Il y avait 23 ans, ils n'étaient que 120, alors que maintenant ils sont aux alentours de 650. C'est ça. Ça veut dire qu'ils se reproduisent bien.
J'ai pas trop compris pourquoi, mais on se fait escorter par deux gendarmes pour visiter le parc. Et l'on tombe sur l'ennemi du Makikata, le boa constrictor, que Patrick n'hésite pas à prendre en main et à mettre autour de son cou.
La façon de prendre comme ça, c'est pas interdit. C'est ce qu'on appelle un pacte environnemental. Mais si c'est à chaque fois que tu prends ça, ça va embêter
les...
Pas bien du tout. Mais là, nous restons dans la classe de chercheurs. Nous sommes tous chercheurs.
Et c'est quoi comme espèce exactement?
Un constructeur.
Un boa constructeur,
ouais.
C'est ça?
Oui, constructeur.
On en trouve beaucoup dans ce parc?
Oui, beaucoup ici.
J'ai peur de l'araignée ce matin, et vous, c'est le serpent.
Et puis, la femelle, elle naît ses bébés directement dans le ventre.
T'as pas mis du...
Elle pompe pas, ça pompe pas
du tout. Non, elle ne pompe pas du tout.
Est-ce que tu as de l'eau pour laver un peu les mains pour prendre? Non.
Mais non, mais ça va. J'ai pas très envie de le prendre.
Voilà.
Fin de la première partie du trek après 4 jours dans la brousse. On retourne à Ambalavao pour changer de direction et de guide. Car, retournement de situation, Adrien doit nous quitter pour une urgence familiale. Sa mère est malade et l'on doit continuer le trek sans lui. Il nous quitte en pleurs, déçu de ne pouvoir continuer avec nous. Et c'est avec un pincement au cœur qu'on doit continuer la route. Et vous allez voir, dans le prochain épisode, nous partons au sud-est d'Ambalavao. Mais ça, sur le moment, je n'ai pas le droit de le mentionner, ni de publier sur les réseaux des photos de la voiture, pour ne pas se faire repérer. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout l'épisode 1 de mon aventure à Madagascar. J'espère vous avoir fait voyager dans ces contrées où l'on n'ose pas aller et qui nécessitent à mon sens de surmonter certaines peurs que nous projette la société. Pour voir les photos du périple, rendez-vous sur mon Instagram et sur mon Facebook sous le nom de Diagonale avec un S. Si tu as passé un bon moment, abonne-toi à Diagonale et tu peux même mettre 5 étoiles si le cœur t'en dit. À très vite au prochain épisode.